Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Sédoudia, bonjour. Une assaillante qui a tenté de mener une attaque au couteau contre les forces israéliennes dans la vieille ville de Jérusalem a été abattue ce jeudi, a rapporté la police israélienne, précisant que la tentative d'attaque n'avait pas fait de victimes parmi ses forces. Selon son communiqué, l'assaillante a tenté de poignarder des policiers dans l'une des rues menant à la mosquée Al-Aqsa. En Afrique, 5 militaires burkinabés qui effectuaient une mission de reconnaissance à Mentao, dans le nord du Burkina, ont été tués et un autre blessé hier dans l'explosion d'une mine artisanale, a annoncé l'état-major des armées dans un communiqué. Par ailleurs, le dialogue politique entre la majorité et l'opposition, consacré à la situation sécuritaire au Burkina Faso, en proie à des violences djihadistes récurrentes, a abouti à un consensus sur une mobilisation patriotique, ont annoncé ce mercredi ses principaux acteurs. En Guinée, les militaires au pouvoir ont achevé ce mercredi la réouverture des frontières avec les pays voisins fermés après le putsch du 5 septembre en rouvrant à la circulation des biens et des personnes la frontière terrestre avec le Sénégal. Certaines frontières terrestres, à commencer par celle avec le Sénégal, étaient en fait fermées depuis des mois, le président déchu Alpha Condé dénonçant alors des tentatives de déstabilisation préparées selon lui depuis le territoire de pays voisins. Le système dépassé des droits de propriété intellectuelle, notamment sur les vaccins anti-Covid, entrave l'industrialisation de l'Afrique. C'est ce qu'a déclaré le patron de la zone de libre-échange continentale africaine, Wamkele Mene, en marge d'une conférence en Afrique du Sud sur la reprise post-pandémie. L'Afrique du Sud et l'Inde en tête ont réclamé une levée temporaire des droits sur les vaccins afin de permettre aux pays à faible revenu de fabriquer localement des génériques moins chers. L'Algérie a pour sa part lancé hier la production locale du vaccin anti-Covid Coronavac en partenariat avec la firme chinoise Sinovac dans la grande ville de Constantine. L'État et la ville de New York, meurtrie par le Covid-19, sont les premiers aux États-Unis à expérimenter la vaccination obligatoire pour les soignants et les enseignants, sous peine de voir leur salaire suspendu et de risquer d'être licenciés. Cette décision a fait grimper le taux d'injection malgré une minorité de récalcitrants. Le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a annoncé pour ce matin un vote sur un texte qui prolongerait le budget actuel jusqu'au 3 décembre. Les parlementaires américains doivent adopter un budget avant jeudi minuit pour éviter l'assèchement soudain des finances du gouvernement fédéral. Le Congrès doit régler en parallèle plusieurs autres sujets cruciaux pour le président Joe Biden, dont l'impasse sur les deux projets titanesques d'investissement dans les infrastructures et les réformes sociales. Plusieurs dizaines d'élus de l'aile gauche démocrate menacent de faire échouer un vote final sur les infrastructures prévues ce jeudi à la Chambre basse. Autre défi, le relèvement d'ici au 18 octobre de la capacité d'endettement des États-Unis pour éviter le premier défaut souverain de la plus grande puissance économique du monde. Les États-Unis ont affirmé hier n'avoir aucune intention hostile envers la Corée du Nord et ils ont renouvelé leur appel au dialogue après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a dénoncé comme une façade les propositions de discussion des Américains. Pyongyang a affirmé cette semaine avoir testé un missile planeur hypersonique et une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue à huis clos aujourd'hui, selon l'AFP. Par ailleurs, Kim Yo-jong, la sœur et conseillère de Kim Jong-un, a été nommée au sein du plus haut organe de l'exécutif nord-coréen, annonce l'agence de presse officielle de Pyongyang. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, restez à l'écoute. La suite de nos informations, des représentants des autorités de la République centrafricaine, pays en guerre civile depuis plus de 7 ans, ont rencontré des opposants cette semaine à Rome, a annoncé ce mercredi la communauté religieuse de Sant'Egidio qui assure la médiation. Précision de John Linden.
Les consultations, qui ont notamment abordé l'épineuse question du désarmement des groupes armés, se tenaient dans la capitale italienne depuis lundi et se sont closes mercredi. Côté autorité était présent le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Evariste Ngamana, et le directeur de cabinet du premier ministre Henri-Marie Dongra, Ernest Mada. Côté opposition, les anciens premiers ministres Anissé, Georges Dologuele, Martin Zigele et Mahamat Kamoum, entre autres. Mauro Caro Fallo, responsable des relations internationales de la communauté Sant'Egidio, qui conduisait les débats, a évoqué un climat apaisé. On a parlé de tout, de l'instabilité et d'un nouveau regard sur l'économie du pays. La discussion a été très large, a-t-il précisé, ajoutant que les participants ont lancé un appel sincère et unanime aux groupes armés pour qu'ils déposent les armes. Ces échanges devaient servir à préparer le dialogue national promis par le président Faustin Archange Touadéra et qui devrait s'éteindre avant la fin de l'année à Bangui.
La justice ivoirienne a ouvert une enquête après des accusations de viol portées par une jeune femme contre le ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan Bertin, qui assure n'avoir rien à se reprocher, Jacques Aristide.
Le parquet ivoirien indique que la jeune fille a porté plainte auprès de la gendarmerie. Une information judiciaire est en cours, ajoute-t-il, tout en précisant que le ministre a également porté plainte en diffamation contre la jeune femme. Les deux dossiers sont traités en même temps, toujours d'après le parquet. Dans un document odieux, une artiste ivoiro-camerounaise qui affirme avoir été une collaboratrice du ministre Bertin l'accuse de l'avoir violée en avril dernier dans la ville ivoirienne de Divo, où elle dit avoir été emmenée de force. Le ministre maintient n'avoir rien à se reprocher. Il a été interrogé mardi soir sur le sujet à la télévision nationale RTI. C'est un dossier pénal qui est entre les mains de la justice, ajoute-t-il. Kouadio Konan Bertin dit qu'Akabé a été l'unique rival d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2020 avant d'être nommé 2 mois plus tard ministre de la Réconciliation nationale. Hier, la Ligue ivoirienne des droits des femmes a demandé aux autorités d'enquêter sur cette affaire afin que la lumière soit faite. Elle accompagnera la plaignante dans la procédure. Ces accusations interviennent quelques semaines après la vague d'indignation qui a secoué la Côte d'Ivoire, provoquée par un programme télévisé accusé d'avoir fait l'apologie du viol. Son animateur, Yves Dembella, a été condamné dans la foulée à 1 an de prison.
L'ambassadeur de France en Algérie, convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères. Pour Alger, il s'agit de protester contre la décision de Paris de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon un communiqué officiel de la diplomatie algérienne, l'ambassadeur François Gouillette s'est vu notifier une protestation formelle du gouvernement suite à une décision unilatérale du gouvernement français affectant la qualité et la fluidité de la circulation des ressortissants algériens à destination de la France. Le ministère algérien a déploré un acte malencontreux qui frappe de précarité et d'incertitude un domaine sensible de coopération entre les deux pays. Le Maroc avait déjà déploré la décision de la France, la qualifiant d'injustifiée. Paris a annoncé mardi la réduction du nombre de visas accordés aux ressortissants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie en raison du refus de ces pays du Maghreb de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des émigrés refoulés de France. Beaucoup de ressortissants de ces 3 pays ont exprimé leur inquiétude aux médias. Walid Ben Nasser, un Tunisien de 46 ans, en possession d'un visa mais qui accompagne sa femme au dépôt de son dossier, a dit à l'AFP que l'Afrique du Nord ne mérite pas un tel traitement de la France. Certes, il y a un problème avec les immigrés clandestins, mais il y a des gens réglo ici qui ont contribué au développement de la France, dit-il, déplorant une discrimination.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Afreximbank, la banque africaine d'import-export et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine ont annoncé le lancement du système panafricain de paiement et de règlement. Cette infrastructure permet aux pays membres de la région d'effectuer des paiements transfrontaliers instantanés en devise locale. Cette infrastructure a déjà été testée dans la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest qui développe ECO, son projet de monnaie unique. Le fonds souverain du Gabon a annoncé son intention de réaliser de nouveaux investissements à l'étranger pour diversifier son portefeuille et augmenter les rendements. Déjà présent au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Togo, le fonds prévoit également d'obtenir une cote de crédit selon Financial Afrique. Pour son directeur général Hakim Daouda, la diversification et l'obtention de la notation sont la clé de notre stratégie pour pouvoir lever plus de fonds pour soutenir l'ambition du pays vers la transformation économique. En Zambie, les autorités ont annoncé l'arrestation de Milingo Lungu, liquidateur de Konkola Copper Mines, la principale compagnie minière du pays. Monsieur Lungu aurait détourné 7,7 millions d'euros dans l'opération. Il a également été inculpé de blanchiment d'argent. Milingo Lungu a rejeté ces allégations comme étant sans fondement et fausses.
Merci Claire. Et maintenant, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Nous commençons ici aux États-Unis avec du basketball. Les joueurs qui ne respectent pas les obligations en matière de vaccination contre le COVID-19 dans les villes de New York et San Francisco ne seront pas payés pour les matchs qu'ils seront contraints de manquer à domicile. C'est ce qu'a annoncé Mike Bass, vice-président de l'instance en charge de la communication, dans un communiqué. La municipalité de New York a adopté un décret imposant aux sportifs professionnels de prouver qu'ils ont reçu au moins une dose du vaccin pour avoir accès aux installations de leur club. À San Francisco, une ordonnance similaire requérant une preuve de vaccination complète entrera en vigueur début octobre. Ces mesures affectent notamment Kyrie Irving, la star des Brooklyn Nets, et Andrew Wiggins, joueur des Golden State Warriors, qui font partie des 10% du contingent de la Ligue à ne pas être vaccinés. En Europe, la Lazio Rome, après une défaite d'entrée en Ligue Europa, se présente en favorite face au Lokomotiv Moscou pour la deuxième journée de la phase de groupe. Naples, autre cador italien, reçoit le Spartak Moscou. Le Napoli pourra compter sur son attaquant nigérien Victor Osimhen, auteur de 6 buts en 10 matchs. Galatasaray se déplace sur la pelouse de Marseille. Un match sous haute surveillance après plusieurs épisodes de violence entre supporters dans le championnat français la semaine dernière. Autre club français en lice, Monaco, qui se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad. Le Betis Séville se déplace à Budapest chez le club hongrois de Ferencváros. Leverkusen, deuxième de Bundesliga, invaincu depuis 5 matchs, se déplace en Écosse. Hier, en Ligue des Champions, le FC Barcelone a été sèchement battu par le Benfica 3-0 à Lisbonne. Lors de la deuxième journée, le Bayern Munich a balayé le Dynamo Kiev 5-0 avec un nouveau doublé de Robert Lewandowski. Chelsea, tenant du titre, s'est incliné 1-0 face à la Juventus. Cristiano Ronaldo a sauvé Manchester United en marquant à la 95e minute pour permettre aux Mancuniens de l'emporter 2-1 à Old Trafford face à Villarreal. Le Ballon d'Or sera remis le 29 novembre à Paris après une année sans lauréat. L'annonce a été faite par le magazine France Football, organisateur de cette distinction, récompensant le meilleur joueur de l'année. La cérémonie sera présentée par l'ancien international ivoirien Didier Drogba. Ils seront décernés le Ballon d'Or masculin, féminin, ainsi que le trophée Copa du meilleur jeune et le trophée Yassine du meilleur gardien. La liste des nommés pour ces différents prix sera dévoilée le 8 octobre. Lionel Messi, septuple lauréat, et Megan Rapinoe en sont les détenteurs après leur sacre en 2019. En 2020, la distinction n'a pas été remise après une saison marquée par le COVID-19.
Merci Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, le processus de renouvellement au sein du RDPC, le parti au pouvoir, est émaillé de vives tensions et d'actes de violence. Dans plusieurs localités, les militants du parti du président Paul Biya ont troublé l'ordre public pour protester contre les irrégularités lors du choix des nouveaux responsables de sections et sous-sections du RDPC. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Dans le sud du Cameroun, région natale du président Paul Biya, les militants en furie ont incendié le domicile de fonction du sous-préfet de Bengbis. Maître Emmanuel Pensi est avocat et combattant du RDPC. Il livre une version des faits de l'incident.
Il y avait deux candidats, ils ne remplissaient pas les conditions, leur liste aurait été éliminée. Et à partir de ce moment-là, il y avait un candidat qui s'est présenté. Et comme semble-t-il, un candidat éliminé était populaire, alors que le sous-préfet était en train de s'interposer pour qu'il n'y ait pas de casse. Les autres personnes sont allées donc brûler sa maison.
À Kongyambeta, à Olangina, dans la région du centre, ou dans le 5e arrondissement à Yaoundé, des militants du RDPC ont troublé le processus de renouvellement des bureaux des organes de base. Dieudonné Essomba à Temungue, militant de la sous-section RDPC de Yaoundé 5, dit avoir dénombré des charters électoraux.
Nous avons des images où des bus de plus de 70 places déportaient gens pour les amener. Puis, dans ce qu'ils avaient dans les villages, personne ne les reconnaissait.
Mathieu Mbida, candidat à la sous-section RDPC dans la commune de Langina, dénonce les mêmes faits.
C'est les militants du Parti Frère, l'ANDP, qui sont venus voter en masse et en tenue du parti.
Le processus électoral a été parfois brillamment interrompu. Les urnes et bulletins de vote vandalisés par les militants. Un candidat a même sorti son arme à feu durant la campagne dans la localité de Ligue Fomo, au nord de Yaoundé. Candidate au poste de président de sous-section OFRDPC en Coltop, dans la région du centre, Catherine Eyenga a fait arrêter le vote à deux reprises.
Mon nom, qui était tête de liste, n'était pas sur le babillard et encore moins dans le fichier du bureau de vote. Le 19 septembre, on a forcé une élection. Nous n'étions pas signifiés pour la tenue de cette élection. Donc nous avons encore une nouvelle fois enlevé les yeux et stoppé le vote.
Jusqu'ici, aucun processus de renouvellement des organes de base du RDPC n'a suscité tant de passion. Steve Tameton est analyste politique. Il pense que deux causes peuvent justifier un tel déchirement en interne.
La première cause, c'est la rupture entre le sommet du parti et la base à travers l'imposition de certains candidats par le sommet du parti, des candidats jouissant d'une illégitimité notable en laquelle les populations à la base ne se reconnaissent pas. Cela a été source de frustration et de tension lors des opérations de renouvellement des organes de base. La deuxième cause, il y a comme une guerre de tranchées au sein du parti avec une volonté des acteurs de se positionner, de jouer un rôle important dans l'influence, l'exercice du pouvoir dans les années à venir.
Le secrétariat général du comité central du RDPC n'a jusqu'ici fait aucun commentaire sur ces actes de violence. Au total, 377 sections du Cameroun et de l'étranger sont concernées par le renouvellement des bureaux de base. Ce processus prend fin ce 30 septembre. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une triste commémoration en Guinée. Il s'agit du 12e anniversaire du massacre de plus de 150 manifestants et du viol de dizaines de femmes dans un stade de Conakry par les forces de sécurité guinéennes. C'était le 28 septembre 2009. 12 ans après, les victimes et leurs familles attendent toujours que justice soit rendue. Elles réclament que le procès des individus suspectés d'être responsables de ces crimes soit ouvert dans les plus brefs délais, au moment où la Guinée entame un processus de transition après le coup d'État du 5 septembre dernier. Pour en parler, Jacques Aristide s'est entretenu avec Asmaou Diallo, présidente de l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009.
Voilà, après 12 ans des massacres du 28 septembre, le procès tarde encore à venir. Mais nous comptons toujours à ce que les personnes inculpées soient entendues devant une juridiction, surtout la juridiction guinéenne. Ça a été notre cri de cœur depuis toujours, depuis qu'on a eu des inculpations, dont le capitaine Moussa Dadis Camara, qui est en exil forcé, on peut le dire comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a toujours réclamé le retour en Guinée, mais le gouvernement de Chine n'a pas voulu qu'il rentre au pays, on ne sait pas pour quelle raison. Mais actuellement, tous ceux qui sont inculpés, ils sont en Guinée. Ceux que le président Condé avait pris toujours dans son gouvernement, ils sont là. Donc c'est pour cette raison que nous pensons qu'on peut faire revenir Dadis pour que tout le groupe soit présent devant la juridiction guinéenne.
Il y a encore plus d'incertitudes pour la justice après le coup d'État en Guinée. Quel appel lancez-vous aux nouvelles autorités de Conakry ?
En 2009, c'était une transition qui était là, et tenue par les militaires. Il y a eu les massacres, pourtant on ne pouvait pas s'attendre à ça. Après ces massacres, ceux qui étaient venus revendiquer la candidature des militaires ont été massacrés sérieusement. Et finalement, c'est un régime civil qui est venu. Ce régime civil, nous, on avait pensé qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose pour les victimes du 28 septembre. Malheureusement, ça n'a pas été comme nous avons voulu, parce que le régime civil a surtout protégé des inculpés. Et on a été toujours banalisé, toujours roulé dans la farine, ce qui veut dire qu'ils ne voulaient pas que la justice se tienne. Alors à ce niveau, nous pensons que ça va arriver.
12 ans déjà donc, et l'attente continue pour les victimes et les familles des victimes. Garde-t-elle toujours espoir que justice sera bien rendue un jour? Et qu'attend-elle précisément de cette justice?
L'espoir est toujours là quand même. Lorsque le nouveau gouvernement est arrivé, au départ on s'est dit que est-ce que ça va aller, oui ou non. Mais lorsque le président, le colonel Doumbouya a pris la parole, le premier jour après qu'ils ont mis Alpha Condé aux arrêts, la première déclaration qu'il a donnée, c'était en disant que la Guinée devait vraiment se venir vers la justice pour tout problème. Maintenant, c'est la justice qui doit trancher. Alors cela nous a donné vraiment un ouf de soulagement. Et aujourd'hui, toute la Guinée parle que du 28 septembre et tout le monde réclame que justice soit rendue.
Asmaou Diallo, présidente de l'ONG Avipa, jointe à Conakry en Guinée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, depuis le début des opérations militaires menées par les FARDC, les forces armées de la RDC, contre les rebelles ADF, les forces démocratiques alliées, dans le territoire de Beni, le nombre de victimes parmi la population n'a pas cessé d'augmenter. Certaines de ces victimes ont vu leurs membres amputés, ce qui les a laissés handicapés à vie, tandis que d'autres ont subi des lésions cérébrales. La société civile appelle à un soutien humanitaire pour ces victimes. Reportage de notre correspondant dans la région, Zanem Neti Zaidi.
Kakoulé, âgé d'une vingtaine d'années, a été amputé du pied gauche par des rebelles qui ont massacré toute sa famille. Il a survécu après avoir été amené à Goma par les comités internationaux de la Croix-Rouge pour y être soigné. Un an après son retour, il ressent encore des douleurs. Il marche désormais avec des béquilles. Incapable de faire certains travaux des champs, il a du mal à se réintégrer dans la vie socio-économique.
Ils nous ont surpris avec maman, papa, mes quatre frères et j'étais le cinquième. Ils les ont tous découpés à la machette devant mes yeux et ils ont promis de me tuer à la fin. Dieu m'a aidé car je m'en suis sorti après m'être battu avec eux. Ils ont coupé plusieurs parties de mon corps avec des machettes, ils ont même emporté ma jambe. Je ne suis plus capable de faire aucun autre travail sauf un travail manuel léger occasionnel alors que nous vivons ici de l'agriculture.
Kavira Semerit a été attaqué avec son mari à leur domicile. Les assaillants les avaient mutilés à la hache alors qu'ils venaient de tuer leurs voisins. Elle est maintenant guérie, mais souffre encore des séquelles de l'attaque.
Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont rencontré mon mari qui prenait un verre. Et il a partagé avec eux sans le savoir. Quand il a voulu aller dormir, ils ont attaqué la voisine, la vendeuse qui servait de la boisson, et l'ont tué avec des machettes et des haches à l'extérieur. Quand j'ai quitté la maison, je les ai vus nombreux dans la parcelle. Pris d'une grande peur, je suis tombée en syncope et ils ont profité pour me donner des coups de machette à la tête. Maintenant, je ressens encore la douleur. Quand le soleil est ardent, je sens ma tête troublée et des larmes coulent de mes yeux.
Il y a beaucoup de victimes de cette catégorie dans les territoires de Beni. En moyenne, 30 à 50 blessés sont reçus chaque année au centre de santé de référence d'Eringeti, l'une des structures sanitaires qui accueille les victimes dans les villages environnants. Ces statistiques changent en fonction du cycle de la violence, révèle le docteur Nzemengo Diedone, médecin responsable de ces centres de santé.
La plupart des états de coma avec des blessures graves. indescriptible. Une fois le malade arrivé, nous le recevons. Et une fois stabilisé, nous l'identifions, nous essayons de décrire les lésions et nous les envoyons et au bureau central et au bureau des CICR.
La société civile du territoire de Béni plaide pour une assistance à cette catégorie de personnes afin de faciliter leur réintégration socio-économique. Omar Kalicia en est le coordonnateur principal.
Tous ces handicapés que nous avons du massacre, ils ne vivent que de leur famille et d'ailleurs des fois aussi abandonnés par la famille. Ils n'ont jamais eu aucune assistance du gouvernement.
L'ADEF et d'autres groupes armés sèment la violence et la peur depuis près d'une décennie parmi les habitants de la ville et du territoire de Béni au nord Kivu. De nombreux civils ont été blessés ou tués, d'autres ont disparu et beaucoup de maisons et des véhicules ont été brûlés. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
La France a durci ce mardi les conditions de délivrance des visas aux ressortissants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Paris accuse les trois pays maghrébins de refuser des laissez-passer consulaires à leurs ressortissants refoulés de l'Hexagone, une situation qui, de l'avis des autorités françaises, freine l'efficacité des reconduites effectives à la frontière. Rabat qualifie d'injustifiée cette décision qui intervient à moins de 7 mois de la présidentielle française en plein débat sur l'immigration. Pour en parler, Nani Talani a joint Jemal Ould Mohamed Taleb, avocat au bureau de Paris et vice-président de l'Observatoire du développement africain.
Alors évidemment que ça a une conséquence majeure, parce que ces pays ne sont pas les pays les moins importants pour la politique extérieure française, et notamment migratoire. Un pays comme l'Algérie est sans doute un pays historiquement fourvoyeur d'immigration vers la France. Le Maroc est un pays particulièrement aussi important dans beaucoup de domaines, mais aussi dans le cadre de la coopération de lutte contre le terrorisme. Et donc, le gouvernement français prend bien entendu le risque de braquer ces pays pour que non seulement la politique migratoire ne se fasse plus parce qu'il s'agit là d'une situation qui va être assez compliquée pour eux, mais en même temps, ils risquent ces pays-là de ne plus coopérer comme auparavant dans la lutte contre le terrorisme à titre d'exemple.
Pensez-vous qu'à cause de la décision de la France, les pays du Maghreb finiront par accepter leurs ressortissants?
La question, c'est accepter leurs ressortissants et à chaque fois que le gouvernement français veut expulser quelqu'un, il lui accorde un sauf-conduit. Si en politique intérieure française, cela a une incidence, n'oubliez pas que dans les pays d'accueil eux-mêmes, cela a une incidence aussi.
Peut-on craindre une détérioration des relations entre la France et le Maghreb?
Non, détériorer, je n'y crois pas tellement. Je pense que ça va peser, c'est évident, ça va peser. Mais après, les trois pays ne sont pas les mêmes, il faut les prendre un à un. L'Algérie, il y a incontestablement un vrai risque d'escalade. C'est-à-dire que les Algériens ont d'abord une relation compliquée avec la France, et pour cause, elle est historiquement assez compliquée. Et donc, il n'est pas impossible qu'on arrive à une position algérienne qui peut se radicaliser totalement. Le Maroc, la situation est plus différente. Le Maroc est un pays qui n'a pas de situation conflictuelle avec la France. Les relations sont excellentes. Une relation évidente qui va avoir comme conséquence un problème, c'est la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et des flux migratoires. Pas du même niveau. La Tunisie n'a pas les moyens. L'Algérie, c'est très probable.
Que deviennent alors toutes ces personnes qui sont en voie d'être expulsées vers le Maghreb?
C'est toujours très compliqué parce que les personnes, vous ne pouvez pas les expulser si vous n'avez pas un pays d'accueil. Et pour que le pays d'accueil accepte de les prendre, vous avez besoin de deux choses. Un, qu'elle soit identifiée comme telle et que le pays accorde un sauf-conduit, une espèce de laissez-passer territorial pour qu'ils puissent les accueillir. Et donc, quand vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas les expulser. Et donc, ils deviennent non acceptables sur le territoire, non expulsables vers leur pays. Et donc, c'est toute la situation compliquée pour le gouvernement français.
La décision de la France, qui survient à moins de 7 mois de la présidentielle en plein débat sur l'immigration, est-elle un peu connectée à la politique?
Une situation comme ça, on ne peut pas la déconnecter de la politique intérieure française. La présence d'un candidat comme Éric Zemmour à l'élection présidentielle, suivi de Mme Le Pen et d'une partie de la droite qui se radicalise aussi, met sans doute l'immigration au cœur de l'enjeu de la campagne électorale. Et donc j'ai du mal à penser que dans une petite arrière-pensée politique, il n'y ait pas ce sentiment-là qui soit pris en compte.
Jemal Ould Mohamed Taleb, avocat au barreau de Paris et vice-président de l'Observatoire du développement africain. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.